imaginez un instant un moteur ultra-puissant qui tourne vraiment à plein régime sur l'autoroute. L'ingénierie semble parfaite, la vitesse est vertigineuse. Mais, de façon assez alarmante, le tableau de bord clignote entièrement en rouge vif. L'huile, la température, la pression...
Tout indique une surchauffe imminente, en fait.
Exactement. Et pourtant, la machine continue d'accélérer. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'un des territoires les plus stratégiques d'Île-de-France. Une zone qui génère une richesse impressionnante, mais où une partie massive de la population semble totalement déconnectée de ce circuit.
Et c'est un sujet fascinant. Aujourd'hui, on soulève un peu le capot de cette mécanique complexe. Et pour ça, on va se baser sur les enquêtes et les données hyper détaillées du média Radio Tam Tam Africa, plus précisément leur journal local.
Ouais, une source super précieuse pour ceux qui s'intéressent à la réalité du terrain. Parce que ce média couvre un axe très spécifique. On parle de Bézon, du département du Val d'Oise dans son ensemble et de toute la zone d'influence de Paris-Ouest-La Défense.
C'est pas juste une simple banlieue, quoi. C'est un véritable réacteur économique et démographique qui est littéralement collé à la capitale.
Et la mission de notre exploration d'aujourd'hui pour notre audience, c'est vraiment de décrypter les paradoxes de ce territoire. On va essayer de comprendre comment un tel dynamisme peut cohabiter avec une pression sociale aussi écrasante.
C'est ça. Et surtout, on va observer comment ces tensions se traduisent ou au contraire se perdent dans un grand silence dans les urnes lors des élections municipales.
Parce que c'est là que l'analyse prend tout son sens, en fait. Le contraste entre les données froides des statistiques et la réalité parfois brutale du vote local. Commençons par regarder la taille de ce fameux moteur territorial. Les chiffres partagés par la source sont juste massifs.
Carrément. On parle de données qui donnent le vertige.
En 2022, le Val d'Oise comptait 1 270 845 habitants. C'est plus grand que la population de pas mal de capitales européennes. Et là-dessus, les chiffres de 2024 nous disent qu'il y a 742 000 électeurs inscrits.
Mais le détail qui saute aux yeux dans l'article, c'est vraiment la pyramide des âges. Seulement 6,2% des habitants ont plus de 75 ans.
Ah ouais, 6%. C'est l'un des taux les plus faibles de France.
C'est super rare. Et d'un point de vue purement économique, une population aussi jeune, c'est perçu comme un atout exceptionnel. C'est le fameux dividende démographique. Une jeunesse abondante, c'est une force de travail qui se renouvelle, une grosse consommation intérieure et surtout un potentiel d'innovation énorme.
Sur le papier, c'est l'énergie brute idéale pour propulser toute une région. Sauf que pour propulser cette région, il faut que cette énergie puisse se loger. Et c'est là que le signal d'alarme commence à sonner très fort.
Ah, le logement, c'est le point de tension critique.
L'enquête de Radio Tam Tam Africa met en lumière un chiffre assez stupéfiant. Il y a seulement 6% de logements vacants sur le territoire et à peine 1,6% de résidences secondaires.
Ce qui est extrêmement bas, tu vois. Ces pourcentages sont cruciaux pour bien capter la pression quotidienne des gens. En fait, un marché immobilier sain, il a généralement besoin d'un taux de vacances un peu plus élevé, juste pour permettre la fluidité.
Pour que les gens puissent bouger, quoi.
Voilà, c'est ce qui permet à une famille de déménager facilement quand un enfant arrive, ou à un jeune actif de trouver un petit appart proche de son premier boulot. Mais avec seulement 6% de vacances, le marché est littéralement grippé.
La place est rare, et du coup elle est chère.
Exactement, et les 1,6% de résidences secondaires, ça confirme juste qu'il n'y a pas de tourisme immobilier là-bas. Ceux qui occupent l'espace y vivent toute l'année et ils luttent au quotidien.
Donc, si on résume, on a un territoire ultra peuplé, très jeune, où l'espace vital est saturé. Face à ça, on pourrait s'attendre à une économie un peu atone, un peu bloquée. Mais c'est là que le paradoxe continue. L'économie, elle, tourne à un rythme effréné.
Et les chiffres de création d'entreprises le montrent bien.
La source rapporte 24 980 entreprises créées rien qu'en 2024. Presque 25 000 en un an. Et côté revenu, le salaire net mensuel moyen était de 2 643 euros en 2023.
C'est l'illustration parfaite de l'attractivité de cet axe vers la défense. Le dynamisme entrepreneurial est vraiment indéniable. Et un salaire moyen de plus de 2 600 euros net, ça prouve qu'il y a une grosse création de valeur ajoutée.
C'est clair. Des cadres, des ingénieurs, ça prospère pas mal ici. Franchement, jusqu'ici, on a presque l'impression de lire une brochure pour investisseurs. Mais voilà le moment où le tableau de bord vire au rouge écarlate. Derrière cette création de richesse, Radio Tam Tam Africa pointe une fracture sociale assez brutale.
Oui, le revers de la médaille est violent.
Le taux de pauvreté atteint 17,7%. Presque une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, littéralement, à côté de ces 25 000 nouvelles entreprises. Comment on explique une telle déconnexion, en fait ?
Bah, c'est le grand paradoxe urbain. La richesse produite sur un territoire, elle ruisselle pas forcément sur ses habitants historiques ou sur les publics les plus fragiles. Le chômage global est à 8,3% au deuxième trimestre 2025.
Ce qui est supérieur à la moyenne nationale, du coup.
C'est ça. Ça veut dire que les emplois créés par cette nouvelle économie florissante, ben, ils correspondent pas forcément aux qualifications d'une grande partie des locaux. Ou alors il y a des barrières invisibles qui freinent l'accès à ces opportunités.
Et devine qui se prend ce mur invisible de plein fouet. La jeunesse, cette fameuse force démographique qu'on vantait il y a 2 minutes. Les données sur le taux d'activité de la zone sont un peu glaçantes.
Ah, les chiffres par tranche d'âge.
Ouais. Pour les 25 à 54 ans, donc les gens bien installés, le taux est très bon, 89,2%. Mais pour les 15 à 24 ans, ce taux s'effondre à seulement 39,3%.
39%, c'est le signe d'un échec d'intégration systémique. Quand plus de 60% d'une classe d'âge jeune n'est pas insérée dans le circuit de l'emploi ou de la formation de façon stable, tu crées un sentiment de déclassement profond.
Ils voient la richesse passer sous leurs fenêtres, en direction de la défense, mais sans eux.
Ils n'ont pas de billets pour monter dans le train, c'est exactement ça.
Du coup, ça soulève une question inévitable pour notre analyse. Comment cette population, qui subit cette pression quotidienne, entre un logement inabordable et une économie qui l'exclut en partie, utilise-t-elle son seul véritable pouvoir de décision, c'est-à-dire le vote ?
C'est la transition parfaite.
Comment ils essaient de reprendre le contrôle de cette machine ? Pour bien comprendre la mécanique des urnes dans le Val-d'Oise, il faut d'abord qu'on décortique un peu les règles du jeu démocratique local.
Oui, c'est indispensable. La source rappelle bien les fondamentaux de l'élection municipale, qui reste quand même le premier échelon de proximité en France. En gros, c'est un scrutin de liste à la proportionnelle organisé en 2 tours.
Avec des mandats de 6 ans et une parité stricte obligée.
Voilà, ça c'est la base. Mais le mot proportionnel peut être un peu trompeur ici.
Ah oui, c'est là qu'on arrive au mécanisme central évoqué par l'article. Ce truc qui m'a toujours paru super contre-intuitif. La fameuse prime majoritaire. Faut qu'on s'y arrête un instant parce que c'est une règle mathématique qui change absolument tout.
C'est la clé de voûte du système. En fait, au second tour de l'élection, la liste qui arrive en tête, même si elle a juste une toute petite voix d'avance, elle rafle d'office 50% des sièges du conseil municipal.
La moitié des sièges est verrouillée d'un coup.
Automatiquement. Et ensuite seulement, les 50% de sièges restants se répartissent sur la proportionnelle entre toutes les listes qui ont passé un certain seuil. Et ça inclut la liste gagnante, qui rajoute donc encore des élus à sa cagnotte de base.
Je vais poser la question un peu crûment, mais donner 50% du pouvoir juste pour être arrivé premier, ça ressemble pas à un code de triche légalisé, ce truc ?
C'est une critique qu'on entend tout le temps, oui.
Surtout dans un territoire comme le Val-d'Oise, hyper fracturé socialement. Est-ce qu'on risque pas d'écraser la voix des minorités en donnant un pouvoir absolu à une équipe qui, mathématiquement, représente peut-être qu'un gros tiers des votants au départ ?
Je comprends tout à fait, mais c'est crucial de voir la philosophie derrière. Imagine, Argenteuil ou Beson sans cette prime majoritaire. Si le conseil municipal était élu à la proportionnelle intégrale, tu pourrais te retrouver avec un conseil divisé en 3 ou 4 petits blocs de taille égale.
Donc une assemblée très représentative, pour le coup.
Hyper représentative, ouais. Mais potentiellement complètement paralysée, en fait. Pour voter le budget, pour construire les logements sociaux dont on manque cruellement, ou pour rénover une école, il faudrait négocier des alliances précaires tous les 4 matins.
Ce qui prend un temps fou.
Exactement. Et dans des zones avec l'urgence sociale qu'on a décrite, la pauvreté à 18%, ben l'inaction, ce serait dévastateur. Donc la prime majoritaire, c'est un compromis assumé. On sacrifie une part de représentativité pure pour garantir la stabilité du maire pendant 6 ans.
L'opposition garde une petite voix, mais elle ne peut pas bloquer la machine. C'est l'efficacité avant tout. Mais le revers, et l'enquête le montre bien, c'est que ça fabrique des majorités écrasantes dans l'hémicycle qui reflètent pas toujours la complexité de la rue.
C'est tout le problème, oui.
Et c'est exactement ce qu'on constate quand on lit la radiographie des résultats dans les 2 grandes villes analysées par Radio Tam Tam Africa. On va commencer par Argenteuil.
Argenteuil, où le journal décrit un climat politique assez tendu d'ailleurs.
Ouais, tendu, mais une victoire mathématiquement incontestable pour le maire sortant. Georges Motron, pour le parti Les Républicains, a conservé son siège face à Yacine Zegli de la France Insoumise. Si on regarde les chiffres purs, Georges Motron gagne avec 55,22% des suffrages.
Ce qui fait 13 895 voix, d'après la source.
C'est ça. Et en face, Yacine Zegli rassemble 44,78% des voix. Donc on a un écart d'environ 10 points, c'est clair. Mais quand on applique la fameuse machine de la prime majoritaire qu'on vient d'expliquer...
Ah bah le résultat en siège est radical.
C'est saisissant. L'équipe majoritaire rafle 43 sièges au conseil municipal et l'opposition, malgré ses presque 45% de voix, doit se contenter de 12 sièges.
Le rapport de force est de presque 4 contre 1. C'est implacable.
Et ce grand écart entre le vote populaire et les sièges, bah, ça explique peut-être la citation que le média a mis en avant. À l'annonce des résultats, le vainqueur a dit « Je suis l'élu de tous les Argenteuillais ».
Une phrase très classique, mais nécessaire.
Bah oui, on comprend pourquoi il est impératif de formuler ça. Le système vient de donner quasiment tous les leviers à un camp, donc il faut tout de suite un discours qui tente de rassurer les 45% qui ont voté pour l'autre projet, mais qui vont très peu peser pendant 6 ans.
C'est le rituel républicain de base pour asseoir sa légitimité, tu vois, surtout dans un environnement aussi complexe. Mais la notion de légitimité, elle prend une dimension encore plus folle quand on regarde la deuxième ville de l'analyse.
Bézon. Alors là, à Bézon, le journal décrit une ville qui bascule dans la continuité. Nesrine Menawara, du Parti Socialiste, gagne avec 52,26% des voix.
Ce qui représente 3560 suffrages.
Et ça lui octroie 30 élus directs. Derrière, on a Philippe Noël, en divers gauche, à 26,73%, et Nadia Aouchich, pour LFI, à 21,01%. Sur le papier, c'est une victoire nette et majoritaire.
Juridiquement, le pouvoir est hyper bien installé. Mais ce tableau parfait est complètement brisé par la vraie donnée choc de Bézon.
Le fameux point noir.
Le taux de participation s'est péniblement hissé à 39,62%.
Ça veut dire que 60,38% des inscrits ne se sont pas déplacés. Plus de 6 personnes sur 10 ont déserté les urnes. Ce chiffre, moi, ça me fait tout de suite penser à une situation que beaucoup de ceux qui écoutent connaissent bien. L'Assemblée générale de copropriétaires.
Ah ouais, l'analogie de l'AG de copro est parfaite pour comprendre l'abstention.
Imagine un immense immeuble de plusieurs centaines d'habitants, mais qui souffre de graves problèmes. Le chauffage lâche tout l'hiver, l'ascenseur est en panne, le toit menace de fuir.
Une cata, quoi.
Et on convoque une AG extraordinaire. À l'ordre du jour, un plan de travaux massif qui va endetter tout le monde sur 10 ans. Une décision vitale. Mais le soir de la réunion, 60% des résidents décident de rester chez eux, devant la télé.
Et les 40% qui sont là débattent et votent les travaux à 52%.
Voilà. Et le syndic valide. C'est légal selon les règles. Les travaux vont commencer.
Mais politiquement, la légitimité est hyper fragile.
Exactement. Quand les factures vont arriver dans les boîtes aux lettres, comment les 60% d'absents vont réagir? L'assise du syndic est minuscule. Et c'est la lecture que fait Radio Tam Tam Africa pour Bézon. La victoire est légale, mais la légitimité d'action est profondément abîmée par le silence de la majorité.
C'est ça qui est dur. Et ça nous oblige à relier les pièces du puzzle. Pourquoi 60% des citoyens d'une ville avec autant de défis restent chez eux?
Bah, la réponse est dans le début de notre exploration, en fait.
Tout à fait. Quand tu as un taux de pauvreté à 18%, que trouver un appart est une lutte avec seulement 6% de vacances et que ta jeunesse subit une inactivité à 60%.
La confiance dans le vote s'évapore, quoi.
L'abstention, c'est plus juste du désintérêt, là. C'est le symptôme d'un déclassement viscéral.
Et ça a des conséquences dingues sur la gestion de la ville. Les maires doivent lancer des rénovations urbaines, des politiques d'insertion, en sachant qu'ils ont été validés par une petite fraction des habitants. Chaque décision devient un combat sur le terrain.
Mettre en mouvement un territoire, ça demande une forte adhésion citoyenne. Si elle est absente dès le jour de l'élection, c'est compliqué.
Du coup, si on prend un peu de recul sur tout ça, 3 grandes réalités se dégagent de l'article pour résumer ce Val d'Oise. La première évidence, c'est la vitalité de la zone. Avec sa jeunesse et ses créations d'entreprises, c'est un vrai moteur de croissance.
C'est la pression sociale colossale qui sert de contrepoids. L'économie dynamique ne masque ni la crise du logement, ni la mise à l'écart dramatique des 15-24 ans.
Et la troisième réalité, c'est le miroir de tout ça. Une démocratie locale qui applique ses règles institutionnelles à la lettre pour être stable, mais qui souffre d'un déficit massif d'adhésion populaire.
Ce paradoxe nous mène à une réflexion finale vraiment intéressante. Le Média Source utilise un slogan très fort « La parole est une force ». Tout au long de leurs enquêtes, ils posent en filigrane cette question. Qui porte réellement la voix du terrain aujourd'hui?
C'est la vraie question. Le système est censé amplifier cette voix, mais les chiffres prouvent que la ligne est coupée pour beaucoup de gens.
Et si la parole est une force, que devient une ville quand le silence est le choix majoritaire de ses électeurs? Si 6 personnes sur 10 choisissent l'abstention, le grand défi, c'est peut-être plus de savoir comment gagner selon les règles mathématiques de la prime majoritaire.
Mais plutôt comment réinventer les institutions pour écouter ceux qui ne parlent plus, en fait.
Exactement.
Comment on fait baisser la température de ce moteur avant que la mécanique sociale n'explose? C'est une réflexion qui va bien au-delà de ce territoire.
Ça questionne vraiment la survie de notre modèle démocratique local face à la précarité.
Un grand merci d'avoir suivi cette analyse complexe avec nous. Gardez l'œil ouvert sur ce qui se cache derrière les chiffres officiels. À très bientôt pour une nouvelle exploration.
Au revoir et continuez à interroger ce que les statistiques ne disent pas tout haut.